Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Madeleine de Jésus, ou plutôt petite sœur Madeleine de Jésus, morte en 1989, il y a à peine 30 ans, cette femme fut une grande figure spirituelle, une figure peu connue, une sorte de Charles de Foucault féminin, fondatrice d'une communauté qui s'est développée aux quatre coins du monde, jusque dans la forêt amazonienne, au Groenland, ou chez les Pygmées, une femme de feu, intime de Mère Teresa, de Frère Roger ou de Jean-Paul II, que je vous propose de découvrir ce matin. Une émission Vivante Église ce matin à la découverte de petite sœur Madeleine de Jésus, donc figure spirituelle à connaître. Autour du plateau, il y a trois petites sœurs. Petite sœur Chantal Françoise, bonjour.
Bonjour.
Petite sœur Christina Eba, bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes d'origine égyptienne, approchez-vous bien du micro. Et petite sœur Mélanie, d'origine camerounaise, bonjour.
Bonjour.
Devait être avec nous aussi une réalisatrice d'un documentaire qui est sorti il y a pas très longtemps, Un choix pour la vie, un film de Caroline Puy-Gruntier, qui retrace l'histoire de cette femme au parcours extraordinaire, fondatrice donc de votre communauté, mais pour des raisons personnelles, cette réalisatrice n'était pas tout à fait disponible. Je dis, il y a aussi une autre actualité, un livre paru récemment aux éditions Parole et Silence, dont on va pas mal s'inspirer, intitulé Madeleine de Jésus, un témoignage vivant pour aujourd'hui, testament spirituel. Peut-être en chapeau de cette émission, qu'est-ce que vous diriez, petite sœur Chantal Françoise, pourquoi est-ce qu'à votre avis, vous avez la conviction qu'il est important de découvrir cette femme ?
Pour moi, c'est très très important aujourd'hui, parce qu'elle, dans un monde qui est déchiré, où il y a tellement de migrants, dans un monde qui est déchiré par nos communautarismes, on a à la fois gagné par les progrès, par beaucoup d'unité, et en même temps on sent tellement de division, et elle voulait toujours grandir dans cet amour entre tous. Et je pense que c'est encore actuel aujourd'hui. Ça l'était quand elle a commencé et ça l'est toujours.
C'était aussi une des intuitions du frère Charles, dans cette fraternité universelle,
oui,
dont le frère Charles...
Oui. C'est l'évangile.
Oui, c'est l'évangile, mais enfin chacun a sa manière de présenter ou de comprendre parfois l'évangile, ou en tout cas d'en souligner un aspect particulier. Alors, commençons par, dans cette première partie, par faire connaissance avec cette sœur, donc petite sœur Madeleine de Jésus. Elle n'est pas née petite sœur Madeleine de Jésus, mais Madeleine Hutin, à la fin du 19e siècle, dans une famille catholique pratiquante, voilà, très religieuse. Qu'est-ce que vous pourriez dire de l'enfance de cette femme, bien des vies de saints, alors elle n'est pas déclarée sainte, mais de grandes figures spirituelles, ont quelques traces dans leur enfance. Est-ce le cas pour cette femme ?
Certainement, parce que vous avez parlé de Charles de Foucault, elle s'en est dite toujours la fille. Alors, frère Charles et petite sœur Madeleine, et le père de Madeleine, sont nés la même année, en 1858. Ils ont été tous les deux marqués par l'Afrique du Nord. Frère Charles en Algérie et au Maroc, où il a découvert des hommes qui vivaient dans la continuelle présence de Dieu, des musulmans, ce qui l'a aidé à redécouvrir sa foi. Et le père de Madeleine, qui était à ce moment-là, il n'était pas encore marié, il était médecin militaire, et il a été amené à sauver un petit enfant, alors qu'il s'était cassé la jambe depuis peu, et il a fait toute une course de cheval. À cause de ça, il a perdu son travail, il a été démobilisé, et la famille a vécu dans une grande pauvreté. Mais il lui a laissé cet amour de l'Afrique du Nord.
Et donc il était médecin militaire.
Il était médecin militaire, oui.
Ou en Tunisie, c'est
en
ça ?
En Tunisie.
En Tunisie, oui, il faut rappeler, donc c'était un protectorat français à l'époque, alors que l'Algérie était un département français.
Oui.
Autre monde, voilà, pour... c'est un autre monde, pour en tout cas la génération d'aujourd'hui, ça paraît difficile à comprendre, mais voilà, c'était la réalité. Ça, est-ce que vous vouliez d'autres... J'ai cru comprendre que dans son enfance aussi, elle a connu la pauvreté.
Elle a connu la pauvreté parce que son père avait perdu son travail et qu'il avait une très petite pension, alors qu'autrement il aurait été aisé. Donc, à cause de cette pauvreté matérielle, elle a aussi été pensionnaire dans une école, acceptée gratuitement, et il y avait des différences entre les élèves dont les familles ne payaient pas l'école et les familles qui pouvaient payer. Il y avait une différence de statut. Donc elle a très fort senti les barrières sociales. Elle a senti aussi les barrières, les frontières qui séparent nos pays, parce qu'elle elle a vécu au moment de la guerre de 1914, elle a perdu presque toute sa famille. Deux de ses frères ont été tués, ils étaient militaires. Sa sœur est morte après des suites de la grippe espagnole. Sa grand-mère a été massacrée dans le village qui avait été complètement brûlé parce qu'ils habitaient à 40 km de la frontière avec l'Allemagne. Et toute sa vie aura été marquée par le désir de dépasser ses frontières.
Donc elle reste seule avec sa mère, c'est ça ?
Elle reste seule
alors
avec sa mère.
Alors qu'elle a 27 ans, c'est ça ?
Oui. Son père mourra en 1925. Alors, juste avant, dans les années 20, en 21, il sort un livre très fameux sur la vie de Charles de Foucault.
De René Bazin.
Exactement. Et
qui s'appelle ce livre, c'est... Peu importe, en tout cas c'est une histoire de Charles de Foucault.
C'est la première biographie de frère Charles. Et elle lit ce livre avec son père et ils sont tous les deux passionnés. Donc après, elle ne rêve plus que de partir dans ces pays-là. Seulement, son père meurt assez vite après. Elle reste seule avec sa mère qu'elle ne peut pas abandonner. Et en plus, elle est malade.
Elle est de santé fragile.
Elle est de santé très, très, très fragile.
Qu'est-ce qu'elle a comme maladie, en fait?
Elle a eu une arthrite, une arthrose déformante et qui la paralysait complètement, pratiquement. Donc, voilà. Pendant des années, elle va supplier le Seigneur. Elle va prier tous les soirs, pour pouvoir partir un jour en Algérie. Et elle est de plus en plus handicapée, et ça ne se déclare qu'un jour quand un médecin lui dit « il vous faut un climat sec pour partir ». Et le prêtre qui la conseillait lui dit « partez ».
C'est le moment, ça a duré 10 ans. Hein.
Ça a duré 10 ans, elle avait 40 ans quand elle a commencé.
C'est souvent comme ça avec les histoires des fondateurs, hein. Il y a un grand temps d'attente. En tout cas, la lecture de ce livre donc, de René Bazin sur Charles de Foucault, elle aurait dit la chose suivante, « J'ai trouvé là l'évangile vécu, la pauvreté totale, la vie mêlée et par-dessus tout l'amour dans toute sa plénitude
».
Donc cette femme a cette intuition et puis elle finit par partir donc, en Algérie avec sa mère, accompagnée d'une autre femme.
Oui.
Et on peut dire que c'est le début de cette communauté. Quand peut-on dater la fondation de votre communauté ? J'ai cru comprendre que c'était 1939, c'est ça ?
La fondation,
elle est partie en 1936.
Oui, elle est partie en 1936. Elle n'avait pas l'idée de faire une congrégation, mais elle se donne à cœur perdu au service de la population. Et elles ont un ouvroir, une soupe populaire, un atelier, tout ce qu'elles peuvent commencer.
Où est-ce qu'elles atterrissent en Algérie, en fait?
À Tougourt. Elles arrivent à Alger, et là, un prêtre qu'elles connaissaient vient les retrouver. Il leur propose d'aller à Tougourt, dans une oasis au sud, un peu au sud d'Alger.
Donc c'est quelques centaines d'habitants, c'est ça?
Oui, et surtout des nomades et des tentes. Des nomades très pauvres et des tentes. Donc elles se trouvent là avec tous les jours, elles font des soupes pour 70 personnes, elles n'ont rien, elles demandent de l'aide, et elles se trouvent dans une activité qui débordante, elle dit, et elle dit quelque chose d'essentiel leur manque. Et c'est cette vie contemplative, cette vie avec Dieu, parce qu'elle s'est trouvée plongée à corps perdu dans l'activité.
Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait une autre date clé, c'est la publication d'un texte, ce qu'on appelle aujourd'hui le bulletin vert, alors vous allez nous expliquer, où Petite Sœur Madeleine de Jésus a fait part d'une grande intuition spirituelle qui était assez prophétique, puisqu'il faut quand même rappeler que c'était bien avant le Concile Vatican II. Qu'est-ce que c'est que ce bulletin vert et qu'est-ce que vous direz de cette grande intuition prophétique qu'a eu cette femme ?
Alors, le bulletin vert, c'est un petit peu après, c'est dans les années 45, donc la fraternité a commencé en 39. Quelques jeunes, c'était la guerre, elle a commencé à la veille de la déclaration de guerre, ou juste le 8 septembre, donc en Algérie. Quelques jeunes sont venus rejoindre Petite Sœur Madeleine, et puis, quand la guerre a fini, davantage se sont intéressés et étaient attirés par cette nouvelle forme de vie avec les gens. Le bulletin vert, c'est le texte qu'elle a écrit pour les petites sœurs. Au début, c'était uniquement pour les petites sœurs. Et puis...
Donc c'était quoi? C'était une espèce de règle de vie, c'est ça, ou de...
C'était un petit peu les grandes intuitions,
qui
pouvaient aider à la formation. Il y avait à ce moment-là une vingtaine de petites sœurs, plus beaucoup de jeunes qui s'intéressaient. Mais... c'était un petit peu les grandes intuitions à la suite de Frère Charles et la deuxième moitié, tout ce qui lui était le plus cher, le plus important. Et elle dira, c'est la pensée chère à mon cœur, c'est comme mon testament. Quel livre. Elle était vivante, hein, c'était pas...
Elle était vivante, elle n'était pas si vieille que ça. C'est...
Non.
Alors, quelle est peut-être la grande intuition qu'on peut retenir encore aujourd'hui, ou voir comme une intuition prophétique ? Est-ce à ce moment-là qu'est née l'expression « levain dans la pâte » qui a été si chère à l'Église pendant l'après-guerre ?
Oui, c'est une expression qui vient certainement de la JOC, l'apostolat par le milieu et tout ça, et que petite sœur Madeleine a prise là. Alors je ne sais plus si c'est elle qui est la première ou pas, mais en tout cas...
La JOC qu'elle avait fréquentée dans sa jeunesse.
Qu'elle avait fréquentée, oui, oui. Où c'était déjà l'apostolat du milieu par le milieu. Elle va plus loin parce que c'était les petites sœurs allaient rejoindre partout dans le monde déjà à partir de 1946. Elle a l'intuition que la fraternité qui est née en milieu d'islam va s'étendre au monde entier. Et donc à ce moment-là, il s'agit d'aller devenir l'un d'eux. Elle dira devenir l'un d'eux.
Devenir l'un d'eux, ça veut dire
Essayer de prendre la culture, la langue... Tout ce qui façonne un peuple le plus possible. On ne sera jamais complètement l'un d'eux. Mais elle dit dans ce bulletin vert, elle dit que ça prendra des années quelquefois d'apprendre la langue, d'apprendre la culture. Tout le travail qu'avait fait Frère Charles parmi les Touaregs, et quand il a travaillé son dictionnaire, c'était pour comprendre la culture, pour entrer, pour trouver les mots, pour pouvoir partager son trésor, l'évangile.
En tout cas, si j'ai bien compris, donc l'intuition prophétique que pouvait avoir reçue petite sœur Madeleine de Jésus, c'est donc une nouvelle forme quelque part un peu de vie religieuse,
oui.
Où il s'agissait juste de vivre en amitié aux quatre coins du monde, auprès des populations les plus méconnues, exclues, oui. Ou rejetées, et d'être à côté et de témoigner en fait silencieusement d'une présence aimante de Dieu, c'est ça ?
C'était absolument pas courant d'aller vivre sous la tente, de vivre d'avoir une communauté religieuse qui soit sous la tente, dans des roulottes, des petites sœurs quelquefois dans une prison, d'être partout dans la forêt amazonienne, aussi bien qu'avec les aborigènes en Australie, c'était pas si courant que ça.
Alors justement, faites-nous un peu voyager, parce que pour vous c'est maintenant on va dire l'histoire de la communauté, peut-être un peu le quotidien pour l'une ou l'autre, on verra au fur et à mesure de l'émission. Rapidement, la communauté connaît une grande croissance. J'ai souvenir dans ce livre que j'ai cité, donc paru aux éditions Paroles et Silence, un témoignage vivant pour aujourd'hui, testament spirituel au début de l'émission, qu'elle dit c'est comme un torrent en fait qui nous entraînait à l'évêque référent de la communauté. Donc en 1949, il y a déjà plus près de 100 religieuses, et en 1959, c'est plus de 800, et aujourd'hui, oui. C'est à peu près 1000 dans le monde.
Oui.
On va dire grand succès. Racontez-nous cette période où petite sœur Madeleine de Jésus prend quelque part son bâton de pèlerin, va à la rencontre des évêques dans le monde entier et propose en fait que des petites sœurs s'installent un peu partout dans le monde. Donnez-nous quelques exemples, racontez-nous cette épopée.
Alors, c'est dans les années 52-54. Où elle part avec petite sœur Jeanne, qui est encore parmi nous. Elle part faire le tour du monde. Elle a laissé, donc c'est elle la fondatrice, elle a laissé dès l'année 48-49, elle a laissé la responsabilité de la congrégation. Donc
très tôt,
à petite sœur Jeanne.
Une femme qui était jeune en plus.
Qui avait 30 ans.
Oui.
Qui avait 30 ans, d'une congrégation, vous venez de le dire, qui était en pleine expansion. Elle lui laisse la responsabilité, mais elle restera toujours à ses côtés pour la seconder quand elle en a besoin. Et pour elles ont continué ensemble. Et donc j'ai dit tout à l'heure qu'en 46, petite sœur Madeleine a cette intuition profonde que... la fraternité n'est pas seulement pour les nomades du désert, comme elle le disait jusqu'à présent et comme elle le vivait, et qu'il faut aller au monde entier. Et tout de suite, dès 46, elle dit « Réjouissez-vous, ouvrez vos cœurs au monde et réjouissez-vous de toutes les petites sœurs qui vont naître partout dans le monde. » Et on est aujourd'hui d'une soixantaine de nationalités dans la fraternité.
Donnez-nous quelques exemples de fondations. Peut-être je citais au début de l'émission, justement en Amazonie, chez les Pygmées, ou je me souviens plus ce que je citais, mais des lieux un peu symboliques comme ça.
On est allé aussi, on a fermé récemment en Afghanistan. Au Pakistan aussi, on a dû fermer, mais on est dans les quatre coins du monde, en Corée, au Japon, au Vietnam, en Afrique, au Cameroun, Mélanie pourra le dire tout à l'heure, au Rwanda, en Afrique du Sud, au Niger, évidemment dans les pays du Maghreb. Un des premiers, donc on a commencé en Algérie, puis après Tunisie, Maroc, Libye. Et très vite, Petite Sœur Madeleine est allée en Orient pour vivre là-bas avec des chrétiens qui vivaient en milieu musulman et pour pouvoir comprendre comment eux vivaient leur foi, apprendre d'eux comment ils vivaient leur foi avec les musulmans. Donc ça, ça a été une des premières, un des premiers tours.
J'aimerais, avant qu'on fasse une première pause, que vous nous parliez aussi de l'étoile filante. Racontez-nous ce qu'est l'étoile filante et surtout le désir qu'avait Petite Sœur Madeleine de Jésus d'aller de l'autre côté du mur, on va dire.
Du rideau de fer, oui. Oui, ça c'est quelque chose qui a animé toute sa vie. J'ai dit au début qu'elle ne pouvait pas supporter les frontières parce qu'elle en avait souffert, dans tout ce qui était frontières, barrières. Et il y avait cette immensité qui était fermée à tout contact extérieur. Donc
l'URSS ?
L'URSS, oui. Et alors il y a deux choses extraordinaires. Il y a cette étoile filante qui était une camionnette Citroën aménagée en camping-car comme on les fait aujourd'hui, mais ça avait été aménagé spécialement avec une petite chaîne, le Saint-Sacrement, pouvoir dormir, pouvoir accueillir trois ou quatre petites sœurs et quelquefois davantage quand elles circulaient. Et avec cette étoile filante, elles ont circulé tous les ans jusqu'à la dernière année quand Sœur Madeleine avait 91 ans. Elle a encore circulé, elle est encore allée en Pologne rencontrer à ce moment-là, soutenir les petites sœurs qui étaient là-bas. Donc il y avait...
Est-ce qu'il y avait des petites sœurs de l'autre côté ? Ah non, pardon, c'était après le...
Non, c'était même pendant, puisque quand elle allait, elle rencontrait tout le monde, elle était attentive à tous ceux qu'elle rencontrait, elle essayait de rencontrer des chrétiens et des jeunes, et il y en a qui ont voulu entrer à la fraternité, donc qui sont entrés clandestinement comme ça, et elle allait tous les ans pour les soutenir, pour les former, et des fraternités étaient déjà nées avant la chute du mur.
Elle s'est liée donc entre autres à Alexandre Maine, c'est ça ?
Oui.
Ou autre grande figure spirituelle.
Oui, qui nous a beaucoup soutenus. Et je voudrais dire encore une chose à propos de ça, c'est qu'en même temps, elle avait fondé cinq fraternités tout autour de cette URSS. Donc une en Autriche, à 20 km, 10 km de la frontière, ou 3 km, je ne sais pas. Une autre en Finlande. Une pendant quelques années seulement au Tibet. Une autre au Japon, à Wakanai. La dernière pointe extrême nord du Japon, la plus près de l'URSS. Et une dernière en Alaska, sur l'île Diomède, à 5 km de l'URSS, dans le détroit de Bering. Donc, côté Alaska, mais les petites sœurs voyaient la côte. Elles auraient pu passer quand le détroit était gelé. Et ces fraternités étaient des fraternités de prière.
Et uniquement d'intercession.
D'intercession pour faire tomber ces barrières. Et on arrive à ce que vous aviez dit, à la fin de sa vie, le mur est tombé quelques jours après sa mort. La veille ou le jour de son enterrement.
1989. Oui. Petite Sœur Madeleine de Jésus, je rappelle le titre de l'ouvrage, entre autres que nous citons dans cette émission, Un témoignage vivant pour aujourd'hui, Testament spirituel, paru aux éditions Paroles et Silence. On fait une première pause musicale et puis après on va développer les grandes intuitions spirituelles, le levain dans la pâte. Je sais qu'aujourd'hui ça en énerve certains, le levain dans la pâte, mais il s'agit peut-être de redécouvrir ce que cela voulait dire à l'époque de Petite Sœur Madeleine de Jésus. Des vies données pour l'islam et pour le monde, la rédemption de l'islam et pour le monde, le choix de la pauvreté, d'avoir un cœur d'enfant, autant d'intuitions à découvrir pour mieux connaître cette femme et à découvrir pour chacun.
Gente sprisa ne trisa ne zitara Gode ad gode ad seram Gibile terra, gibile
d'ecclesia, precadis domini, donam precadia, donam precadia. Comida festo cadat ecclesia, precadis domini, donam precadia. Cadeat, cadeat celam, civile terra, cadeat gentes, risolet sida. Cadeat, cadeat celam, civile terra, civile terra.
La découverte de Petite Sœur Madeleine de Jésus, c'est donc le titre de l'émission Vivante Église de ce jour, avec autour du plateau, pour rappel, Petite Sœur Chantal Françoise, membre de cette congrégation, Petite Sœur Christina Eba, d'origine égyptienne, et Petite Sœur Mélanie, d'origine camerounaise. Et je le redis, devait être avec nous donc, la réalisatrice d'un documentaire, Un choix pour la vie, paru sur cette femme, un film de Caroline Puy-Gruntier, qui a été empêchée pour des raisons personnelles. J'aimerais, dans cette deuxième partie, qu'on développe, que vous nous parliez davantage des grandes intuitions spirituelles de cette femme. Donc on en a parlé, il a été publié donc un bulletin vert au début de la vie de cette communauté, qui dit les grandes intuitions spirituelles, on va dire, à l'école de Charles de Foucault, et puis celle qu'elle avait dans le cœur, et qui peut-être lui avait été donnée, on va dire, de la part de Dieu. Il y a on va dire, une cinquantaine de pages. La première, ça ne vient pas dans cet ordre, j'aimerais qu'on revienne sur « Témoin de Jésus, tu vivras mêlé à la masse humaine comme le levain dans la pâte ». Je le disais, le levain dans la pâte, aujourd'hui dans l'Église, on va dire qu'il y a les pour et il y a les contre, pour faire simple. On sent que certains ont donné leur vie pour cela et d'autres sont un peu exaspérés parfois de ce terme. Le propos serait peut-être d'abord de remettre en perspective. Quand cette femme a eu cette intuition, ça n'était donc pas du tout à la même époque, ni le même contexte, mm-hmm. on va dire, sociétal et religieux. Elle a cette phrase, il s'agit tout simplement d'une conception différente, donc on imagine de la vie religieuse, qui essaie de répondre à des besoins différents d'un siècle nouveau. Qu'est-ce que vous diriez sur ce volet, petite sœur Chantal Françoise ?
C'est très riche, mais je pense que c'est très très important. Et puis surtout de ne pas s'affronter, mais d'accepter qu'on est différent et qu'on peut avoir des approches différentes qui vont s'enrichir. On a besoin de tout dans l'Église. Frère Charles et petite sœur Madeleine ont parlé souvent de défricher. Et c'est ça, être le levain dans la pâte, c'est préparer le terrain. Après quoi, d'autres pourront arriver et faire une annonce plus directe. Ça ne veut pas dire qu'on n'annonce pas et qu'on n'a pas d'apostolat. Ce n'est pas, absolument pas vrai. Sœur Madeleine dit même, ce sera peut-être même l'apostolat le plus fécond. dans le film, il y a un prêtre qui parle, qui dit « Je constate l'efficacité de l'inutile présence des petites sœurs ». Donc, ça, c'était dans un village musulman, entièrement musulman au Liban, où il venait fonder un dispensaire et il constatait que le terrain était préparé pour accepter des chrétiens. Et je pense que c'est quelque chose de très, très important de pouvoir être là, vivre en amitié et préparer, parce qu'après, les amis de mes amis sont mes amis. Donc, devenir ami avec quelqu'un prépare le terrain pour accueillir d'autres. Et j'ai été au Liban pendant la guerre. Tous les endroits où chrétiens et musulmans vivaient en amitié, dans tous ces endroits-là, les problèmes ont été moindres.
Autre passage de ce bulletin vert, et si je le répète avec tant de force, c'est surtout que j'ai devant les yeux le modèle unique, Jésus, Dieu fait homme, qui au milieu de tous les humains a été simplement l'un d'eux, vivant avec amour sa vie humaine, faisant ses délices de vivre au milieu des enfants des hommes. L'autre grande phrase de petite sœur Madeleine de Jésus, c'est donc être contemplative au cœur du monde. Aujourd'hui, ça paraît, on va dire, presque une habitude. Bien des communautés vivent ça. C'est la même chose. Vous pourriez repréciser de son intuition contemplative au cœur du monde, qu'est-ce que ça voulait dire en fait pour elle ?
À ce moment-là, ce n'était pas du tout facile. Elle a eu une très grande relation avec le père Voyaume, qui était le fondateur des Petits Frères de Jésus, lui aussi à la suite de frère Charles. Et ils se sont beaucoup soutenus l'un l'autre. Et dans leurs lettres, dans leurs conversations, on sent très très fort cette lutte qu'il y avait. Le père Voyaume avait commencé une congrégation cloîtrée, pratiquement, aussi en Algérie, mais avec un style de monastère. Et petite sœur Madeleine, au moment de la guerre, elle va sans arrêt vers le monde, les usines, ouvrez votre cœur. Et ils ont toute cette conversation, toutes ces écrits entre eux, où le père Voyaume dit, mais ça ne convient pas à une congrégation qui se veut contemplative de faire une fête comme ça. Et sœur Madeleine dit, mais ce n'est pas possible, l'amitié, c'est à ça que ça nous engage, c'est ça que nous devons vivre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces deux conceptions assez différentes au départ de la suite de frère Charles se sont retrouvées au fur et à mesure. Il y avait un autre frère qui a eu cette expression... garder toujours ce nœud crucial de cette tension qui sera toujours la nôtre, d'être véritablement contemplative et de rejoindre le monde entier, d'être partout dans le monde.
Je ne retrouve pas exactement l'expression, mais il me semble qu'elle avait une expression qui était, elle disait à ses sœurs, soyez humaine avant d'être chrétienne, c'est ça ou quelle est l'expression exacte ?
Oui, c'est tout au début. Soyez humaine avant d'être chrétienne et religieuse. Je pense aussi. Oui.
Et elle entendait là par ça, elle entendait par cela de d'avoir la vie de Monsieur, Madame, tout le monde quelque part, c'est ça, c'est.
Oui, mais
ou au milieu de Monsieur, Madame, tout le monde.
C'est... Au milieu, complètement au milieu, et puis soyez profondément humaine dans toute la force et la beauté du terme. Et quelquefois, quand on dit c'est humain, c'est pour excuser les défauts. Elle, elle dit que pour elle, l'humanité est belle, puisque créée par Dieu. Et on se rend bien compte que là, on se rejoint tous, chrétiens ou non chrétiens, de tout bord, de toute religion. On se rejoint profondément dans notre humanité.
Petite sœur, Mélanie, vous aviez un commentaire sur ce sujet.
Oui, justement, petite sœur Madeleine croit en ce Dieu qui est tendre. Donc, à la chapelle, pendant ma prière, laisser Dieu poser son regard tendre sur moi, doit être à mon tour témoin de cette tendresse de Dieu. Petite sœur Madeleine dit, soyez un sourire sur le monde. Et donc, quand je rencontre quelqu'un, qu'il soit chrétien, musulman, juif ou qui se déclare athée, savoir que Dieu pose le même regard sur ces personnes que sur moi. Et là, ça change tout. Je peux le regarder pas comme un étranger, pas comme quelqu'un qui me fait peur, mais comme un enfant, une fille, un fils aimé de Dieu, tout comme moi, je suis aimé de Dieu.
Voilà, la tendresse. On ne peut pas dire que le pape François dirait le contraire. Lui qui insiste à temps et à contre-temps pour que l'Église manifeste la tendresse de Dieu à l'égard du monde. Il y a un autre, dans ce bulletin vert, un autre aspect, donc parmi les grandes intuitions de votre famille spirituelle, la consécration de la vie des petites sœurs à la rédemption de l'islam et du monde entier. Voilà, l'islam, c'est en France, on va dire, un sujet brûlant, sur lequel il y a parfois bien des crispations, des incompréhensions ou parfois des colères. Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, vous avez chacune consacré votre vie à la rédemption de l'islam et du monde entier. Et qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être on va commencer par vous à nouveau, petite sœur Chantal Françoise.
Je dirais que c'est peut-être un amour de préférence ou de première place, puisque c'est grâce à des musulmans que frère Charles a retrouvé la foi. Il disait des hommes qui vivent en continuelle présence de Dieu. On est affronté aujourd'hui à un mouvement d'islamisme dans lequel on pourra mettre nous aussi nos ismes excessifs. Et c'est tout ça qu'il faudrait un petit peu démolir pour se rencontrer.
Et en tout cas, l'intuition de Petite Sœur Madeleine de Jésus, c'est que les 1000 sœurs qui ont fait partie de la congrégation, si ce n'est plus, ont donné leur vie.
Oui.
Donc, ont donné leur vie, pour
frères,
quoi? Ça veut dire quoi,
pour
en
nos
fait
frères? Donner sa vie, c'est être au service.
Ça,
c'est...
oui, mais pour la rédemption de l'islam et du monde entier, qu'est-ce que ça signifie exactement, en fait?
C'est partager, donner sa vie complètement au Seigneur pour partager. C'est lui qui sauve. De toute façon, c'est lui qui sauve, c'est pas nous. Donc c'est donner notre vie complètement au service de nos frères et sœurs.
Avec un amour de préférence pour les musulmans, on va dire.
Oui, c'est... oui, oui.
Alors vient tout de suite une question, je ne sais pas qui veut répondre, parce que je sais que vous, petite sœur Christina Eba, vous avez donc vécu en Égypte, enfin vous êtes égyptienne. Une question vient, peut-être une réserve pour certains auditeurs, que des chrétiens qui finissent par vivre tellement en amitié avec les musulmans peuvent laisser entendre que l'islam serait une voie, on va dire, de salut comme une autre. Qu'est-ce que vous diriez à cette réserve qu'ont peut-être un certain nombre d'auditeurs? On va recommencer avec vous et puis on demandera un commentaire à petite sœur Christina Eba. Qu'est-ce que vous diriez, Chantal Françoise, à ceux qui formulent cette incompréhension, cette réserve?
Je dirais que c'est avant tout Dieu qui nous sauve, et que nous ne sommes pas maîtres, et que ce n'est pas à nous de décider qui l'est ou qui ne l'est pas. En plus, dans l'Évangile, frère Charles dit qu'il a la phrase qu'il a le plus touchée, c'est « Tout ce que vous ferez à l'un de ces petits, c'est à moi que vous le ferez. » Cette phrase, on peut la lire de deux manières. C'est-à-dire que nous allons rencontrer les petits, et on peut la lire d'une autre manière. « Je suis petite et je vais en petite. » Et tout ce que l'autre me fait, c'est à Jésus qu'il le fait. Et ça, c'est ce regard très très important qui permet que c'est ensemble que nous irons vers Dieu. Je crois que c'est aussi c'est un désir de l'amour chez tout croyant. C'est un Ali Marad, un musulman, qui le dit dans un livre qu'il écrit sur frère Charles. C'est le désir de tout croyant de partager sa foi. Donc on va profondément en désirant partager notre foi, faire connaître, mais en acceptant que l'autre soit différent. Et là, on est devant la liberté. Dieu respecte notre liberté. On ne peut faire que la même chose.
L'autre question qui vient, c'est qu'en France, l'islam fait de plus en plus peur. Et vous, vous faites partie donc d'une famille religieuse qui a l'habitude ou au cœur de vivre, et ce depuis les débuts. Donc maintenant, ça fait quand même un certain nombre d'années, puisque c'est qu'en 1936, c'est ça la fondation ?
39,
pardon. De vivre en amitié avec les musulmans. Alors par exemple, vous, sœur Christina Eba, qui est égyptienne, qui avait vécu avec des musulmans, qu'est-ce que vous diriez aux Français qui ont peur, de plus en plus parfois, peur de l'islam, peur des musulmans, et qui se demandent un petit peu comment s'y prendre, ou à quoi cela servirait de vivre en amitié comme ça avec les musulmans.
Je voudrais partager avec vous, un jour, je suis allée avec petite sœur Hélène dans un village au Fayoum.
Donc en Égypte.
En Égypte, il y a beaucoup de musulmans et chrétiens. Nous sommes arrivés devant la porte, un jeune homme musulman nous a dit « Viens ma sœur, viens ma sœur ». Cette phrase, j'ai été étonnée comment un jeune homme musulman et nous sommes chrétiennes, religieuses, et nous a dit « Viens, ma sœur ». J'ai senti avec cette phrase, vraiment, nous sommes frères et sœurs. Et on peut vivre ensemble, on peut partager l'amitié chaque jour dans la vie quotidienne, simplement, avec joie, avec seulement présence, les uns les autres.
Petite sœur Chantal François, vous disiez, ou vous, petite sœur Mélanie, vous avez vécu aussi auprès de musulmans. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet?
Oui, j'ai vécu pendant 7 ans à Strasbourg. Et c'est un milieu musulman. On était dans une cité, la cité de Cronenbourg. C'est ce que des musulmans. Et on a des très, très belles relations avec les voisins. Une relation vraiment d'amitié. Moi, je travaille comme auxiliaire de vie. Et j'ai l'habitude d'entrer chez les gens. Et la première personne chez qui j'entre le matin, c'est une femme musulmane. Et la relation a été si forte qu'un jour, elle s'est confiée à moi. Elle a dit, Mélanie, tu es comme ma sœur de sang. Et ça, je trouve que c'est très, très fort. Voilà ce que je peux témoigner de...
Petite Chantal, Françoise, vous qui avez vécu au Liban, on présente souvent le Liban un peu comme un miracle du Moyen-Orient, où justement se vit une forme de coexistence, alors non sans difficulté et tension. Qu'est-ce que vous répondriez aussi à cette réserve qu'on entend souvent aujourd'hui?
Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller dans les relations. Nous sommes tous frères et sœurs, justement, comme elles l'ont dit, profondément humains. Et je pense à cette rencontre que nous avons eue. Petite sœur Madeleine a fondé une fraternité dans le nord du Liban, dans un village entièrement musulman, en même temps qu'une autre dans un village chrétien. Bon, ceux de ce village musulman, une fois on a rencontré les jeunes filles qui étaient là-bas, qui souffrent énormément des étiquettes, de tout ce qu'on peut mettre sur eux. Et on a besoin de faire tomber toutes ces barrières. Parce que les personnes sont des personnes. L'immense majorité ne cherche qu'à vivre en paix avec les autres. Et c'est ça qu'il faut bien se dire, même si aujourd'hui, oui, on a des peurs, on a des souffrances qu'il faut reconnaître. Mais ce n'est pas la majorité. Et pendant la guerre, j'ai toujours pensé que une bombe fait tomber une maison en 2 secondes, ça fait beaucoup de bruit et on en parle dans les journaux. Alors que pour construire un immeuble, il faudra des mois, il faudra beaucoup d'ouvriers, beaucoup d'argent, et on n'en parlera pas dans les journaux. Donc il faut remettre nos critères et nos pendules à l'heure pour revoir les choses d'une autre façon. C'est peut-être là que la vie contemplative intervient, parce que contemplative, ça veut dire contempler, et contempler, c'est regarder la beauté de l'autre.
Il y a un dernier point sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête avant qu'on fasse une deuxième pause, c'est cette intuition spirituelle qui est donc formulée à nouveau dans le bulletin vert, et par-dessus tout, dans un cœur d'enfant, tu devras recevoir le tout petit Jésus de la crèche, des mains de la Vierge Marie, sa mère. Donc cœur d'enfant, petit Jésus, crèche, donc cet esprit d'enfance que votre fondatrice vous invitait à avoir. Vous me disiez en préparant l'émission que c'était le fruit d'une grande intuition spirituelle, quelque part d'une grande grâce mystique, en fait, qu'a reçue votre fondatrice, qui faisait écho à celle qu'avait reçue Charles de Foucauld. Est-ce que vous pourriez nous partager quelle est cette grâce qu'elle a reçue et qui a profondément traversé votre ordre et qui traverse peut-être toutes vos vies religieuses?
Donc, frère Charles, lui, il a été saisi lors d'un pèlerinage, juste après sa conversion à Nazareth. C'est quand il a traversé les ruelles de Nazareth, lui était de milieu très aisé, il venait d'un autre monde, et il a été saisi par la pauvreté de ce village et par le réalisme de Nazareth, comment Dieu s'est fait homme dans un village comme ça, est devenu un pauvre artisan. Et ça a complètement bouleversé sa vie, et il a recherché après toute sa vie à descendre. Il dira descendre et prendre la dernière place. Petite sœur Madeleine, elle est la fille de frère Charles, mais elle aura fait cette expérience très profonde, cette expérience mystique, alors qu'elle était à Tougourt, donc ce dispensaire, donc avant même la fondation, en 1937, de voir, sentir, je ne sais pas, Jésus tout petit qui lui est donné par la Vierge. Et c'est ce Jésus tout petit qu'elle va toujours nous confier et nous dire de devenir comme lui. Donc frère Charles, ce serait Nazareth, et petite sœur Madeleine, c'est Bethléem, ce visage de Jésus à Bethléem. Ce qui veut dire Jésus tout petit, un enfant qui sourit, qui ne peut rien faire de lui-même, qui est soumis, remis entre les mains de ses parents. Et c'est pour ça qu'après, elle nous demande d'être des petites sœurs de rien du tout, d'avoir cette toute petite place, et d'approcher les autres de cette façon.
Thank you.
présence à foi 100.2. Vivante Église, Emmanuel Pella.
À la découverte de Petite Sœur Madeleine de Jésus, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec pour rappel, si vous nous prenez en cours de route autour du plateau, Petite Sœur Chantal Françoise, d'origine française, Petite Sœur Christina Eba, égyptienne, et Petite Sœur Mélanie, toutes trois membres de cette famille spirituelle donc présente dans à peu près 60 pays dans le monde, à peu près 1000 sœurs, mais le propos est surtout de découvrir cette figure spirituelle. Je tombais en préparant l'émission sur un article du journal La Croix de Claire Lesse-Grétin qui parlait de votre fondatrice et ça commençait par cette fondatrice trop méconnue. Donc c'est l'objet et le défi de cette émission. Alors pour finir cette émission, on va parler un petit peu de vous, sœur Christina Eba et sœur Mélanie, en voyant peut-être au travers de votre témoignage comment la vie de cette femme et ce qu'a reçu cette femme vous a rejoint ailleurs, on va dire, j'allais dire presque aux quatre coins du monde, et comment ça a traversé votre vie. Comment avez-vous, petite sœur Christina Eba, connu Madeleine de Jésus et cette famille spirituelle, les petites sœurs de Jésus? Comment est-ce que vous êtes tombée sur cette famille, et pourquoi est-ce qu'elle vous a tellement parlé, cette famille, que vous avez voulu en faire partie?
Et je voudrais dire, ma sœur est née aussi, elle est petite sœur. J'ai visité ma sœur à la fraternité du village au Fayoum, en Égypte, où elle habite.
Donc c'est au sud du Caire, c'est ça?
Au sud
du Caire.
Oui. Dans ce village, il y a beaucoup de musulmans, des chrétiens. J'ai été étonnée par l'accueil de petite sœur pour tous. La porte est ouverte. Les grands, les enfants, les musulmans, les chrétiens, avec simplicité, avec joie, avec grand respect et écoute pour tous. C'est la première chose qui vraiment, j'étais étonnée devant cet accueil.
Et c'est ça qui vous a, on va dire, qui vous a donné envie de rentrer dans cette famille religieuse particulièrement?
Oui, oui. Et aussi, la deuxième chose, la prière. La prière des petites sœurs, c'est profonde et c'est simple. Et c'était impressionné. Aussi, dans la chapelle, il y avait devant l'autel le petit Jésus. Il sourit, il ouvre les bras. J'ai senti cette image, elle me donne aussi une joie. Et comment je peux partager cette joie avec tout le monde? Jésus, tout petit, vient vers moi et vient aussi pour les autres.
Alors parmi les grandes intuitions spirituelles, on en a cité donc quelques-unes, peut-être les principales, de Petite Sœur Madeleine de Jésus. Est-ce qu'il y en a une qui vous touche, qui vous rejoint particulièrement? Peut-être est-ce que vous venez de citer. Qu'est-ce que vous diriez? Quelle est l'intuition spirituelle qui vous frappe le plus dans ce qu'a été celle de cette petite sœur dont on parle aujourd'hui?
Oui, le premier point, petite sœur Madeleine, elle dit... Dieu m'a prise par la main et avec elle, j'ai suivi. C'est la confiance de petite sœur Madeleine et c'est la foi de petite sœur Madeleine. Elle était faible et malade, mais elle dit, c'est Dieu qui m'a conduit. Il m'a conduit dans ma vie malgré la faiblesse. Elle est malade, mais elle a senti et Dieu elle a appelé, et aussi comment elle partage cette foi et cette confiance avec les autres.
Allez-y.
La deuxième chose aussi, l'enfance spirituelle. La petitesse, la joie, la simplicité. Dieu a choisi ce chemin. Dieu a venu tout petit pour vivre avec nous, pour être avec nous.
Petite sœur Mélanie, même question. Comment au Cameroun avez-vous entendu parler de Madeleine de Jésus et de cette fraternité? On imagine qu'il y avait aussi une fraternité là-bas, tout simplement. Mais même question, pourquoi est-ce que ces, vos pas vous ont conduit jusque-là?
Voilà, je vous remercie. Et malheureusement, je n'ai pas connu les petites sœurs de Jésus au Cameroun.
C'est pas grave, vous voilà, pouvez quand même répondre
oui,
à la question.
Oui, je vais répondre à la question. Voilà, j'ai connu les petites sœurs de Jésus en France par M. Google. Et là, j'ai pris contact et la première chose qui m'a touchée, c'est l'accueil, comme Christina vient de le dire tout à l'heure. J'ai trouvé des petites sœurs avant tout joyeuses. Je m'attendais à des contemplatives à la chapelle en train de prier. Et j'ai trouvé des femmes tout ordinaires, joyeuses. Et c'est comme si elles me voyaient pour la première fois, mais c'est comme si j'étais déjà dans leur congrégation. Et c'est donc cette dimension de l'accueil, de la simplicité qui m'a touchée. Voilà, l'autre chose, c'est que la prière d'abandon de Charles de Foucault m'a beaucoup accompagnée et pendant un moment où j'ai passé une période difficile de ma vie. Donc, il y a cet abandon, cette confiance de l'enfant qui s'abandonne à son père, qui me touche aussi dans cette prière des petites sœurs de Jésus.
On n'a pas le temps de la relire, mais en tout cas, elle est célèbre. Donc, on invite nos auditeurs à faire confiance à M. Google pour retrouver aussi cette prière.
Oui, c'est ça. Voilà.
Qu'est-ce que vous diriez à propos des intuitions spirituelles? Est-ce qu'il y en a une aussi qui vous parle au cœur? Est-ce la même que sœur Christina Ebar? Qu'est-ce que vous diriez sur ce point?
Moi, depuis un peu plus de 2 ans, je suis saisie par le mystère de Bethléem. Parce que quand on entre, moi, je n'ai pas compris ça tout de suite. Bethléem, c'est la porte d'entrée dans la spiritualité des petites sœurs de Jésus. Et Bethléem, c'est justement avoir cette attitude d'enfant. Et tout à l'heure, on a souligné la confiance, l'abandon. Et je vais souligner aussi la joie. L'enfant, il ne fait peur à personne. L'enfant est joyeux. Entrer dans l'émerveillement. C'est aussi ça la dimension contemplative des petites sœurs, savoir s'émerveiller. Dieu s'émerveille de nous. Nous voyons dans le livre de Job, au chapitre 1, Job s'émerveille, Dieu s'émerveille de Job. Il dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a pas son pareil sur la terre. » Donc Dieu nous regarde avec tendresse. Il s'émerveille, il est content. Savoir que vraiment Dieu s'émerveille, voilà, c'est quelque chose qui me donne de la joie tous les jours. Et cette joie, ce n'est pas toujours sensible. Parce qu'il y a des moments où, voilà, on a l'impression, moi, parfois, j'ai l'impression de faire mes valises et de partir. Mais il y a cette phrase de Jésus qui me donne le courage. C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Voilà, c'est...
Ma petite sœur Madeleine de Jésus, d'ailleurs dans le livre dont je vais redonner une dernière fois le titre, j'ai souvenir, chaque fondatrice dit souvent la même chose, hein, mais elle rappelait régulièrement que ce n'est pas elle évidemment qui avait fondé cette famille spirituelle et qui avait l'impression d'être pris dans une aventure extraordinaire, j'allais dire malgré elle, mais en tout cas de manière consentante, mais au-delà d'elle-même. Madeleine de Jésus, un témoignage vivant pour aujourd'hui, testament spirituel, paru aux éditions Parole et Silence, c'est le livre que nous avons en partie parcouru aujourd'hui. Et puis Un choix pour la vie, un film de Caroline Puy-Gruntier, donc film documentaire pour découvrir la vie de cette femme. Film qui sera donné, présentation de ce film qui aura lieu justement le jeudi 3 mai. Rendez-vous est donné à 19h45 à la Maison diocésaine du Christ-Roi à Toulouse. Toutes les informations évidemment sur notre site internet. Merci beaucoup d'être venu nous faire découvrir à grands pas cette grande femme, petite sœur Madeleine de Jésus. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.